Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Notre époque se caractérise par toutes sortes d'excès, notamment par des abus d'ordre sexuel. La sexualité n'a rien de mauvais en soi. Au contraire, c'est quelque chose de merveilleux, un don de Dieu qui contribue à rendre sa création parfaite. Rappelez-vous ce qu'avait dit l'Éternel lors de la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Après que l'Éternel ait donné une compagne à Adam, il dit encore, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront d'une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Mon père pour les citer aux Juifs, afin de leur enseigner le caractère sacré du mariage. On croirait entendre le panégyrique de la beauté normale des rapports sexuels entre un homme et une femme, liés l'un à l'autre pour la vie. Mais de nos jours, lorsqu'on parle ou que l'on découvre la sexualité au théâtre, à la télévision ou dans une certaine presse, c'est rarement sous l'aspect que nous venons de décrire. Elle nous est présentée sous la forme d'un acte qui dure le temps d'une passion toute passagère et dont les partenaires se quittent comme si de rien n'était. L'idée d'un amour réciproque est exclue, alors que le rapport sexuel n'est bon et beau que lorsque deux êtres se donnent l'un à l'autre entièrement parce qu'ils s'aiment. C'est là ce qu'enseigne la Bible. Un psychologue écrit à ce sujet, « Normalement, la sexualité est un moyen d'exprimer son amour. Elle est aussitôt justifiée et même sanctifiée, pour autant qu'elle soit le véhicule de l'amour. C'est ainsi que l'amour n'est pas une simple résultante de la sexualité, mais bien le moyen de traduire l'unité profonde qui s'appelle l'amour. Le plaisir est et doit demeurer une conséquence, un produit, mais il est galvaudé et même détruit lorsqu'on en fait un but. Il est maintenant plus aisé de saisir pourquoi la sexualité récréative se trouve en constante autodestruction. Dans de tels rapports, le plaisir est l'unique but, mais cet objectif ne peut être pleinement atteint si on le recherche par égoïsme. La satisfaction sexuelle ne peut être obtenue qu'en se donnant totalement à l'être aimé. L'apôtre Paul l'exprime ainsi, « Pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Lorsque la sexualité occupe la place que l'Éternel lui a dévolue, c'est-à-dire quand elle devient la conséquence de l'amour, presque tous les problèmes sexuels se trouvent résolus. On parle malheureusement beaucoup trop peu de ces vérités basées sur la psychologie. La majorité des couples en sont encore à penser que lorsque les plaisirs conjugaux ne peuvent être obtenus, c'est à cause soit d'une sorte d'incompatibilité, soit d'un mauvais concept du mariage lui-même. Ceux qui prétendent ou craignent que la frustration sexuelle de certains époux n'ait pour origine un manque d'accord sur le plan charnel trouvent une solution toute simple. Vivre ensemble à l'essai, à la colle. D'après eux, on devrait vivre ensemble durant une période plus ou moins longue avant de se marier. Et durant ce stade de vie commune, on a tout loisir de s'apercevoir si on est fait pour vivre ensemble et surtout si une harmonie sexuelle peut être obtenue. Un médecin, chef de service dans une grande université, parle en ces termes de ce genre d'union. Si un couple décide que sa vie sexuelle doit être sanctionnée par un mariage au cours duquel les époux se promettent à jamais fidélité et loyauté, il n'y a aucun lieu de croire qu'une parfaite harmonie sur le plan sexuel puisse être difficile à obtenir. Il y a tout lieu de croire qu'une motivation positive mutuelle les animera dans le but d'obtenir le plaisir de leur conjoint et qu'ils pourront se fier à leur biologie pour le garantir. Remarquez qu'à aucun moment ce médecin ne met en question le mariage à l'essai pour des raisons morales. Il affirme tout simplement qu'un tel genre d'union ne peut tout simplement donner les résultats qu'on en attend. Les mariages à l'essai ne sont en fait qu'une théorie qui prétend « Vivez ensemble, donnez-vous l'un à l'autre avec tous les symboles de l'amour. Croyez que vous vous aimez, mais surtout ne vous engagez pas, autrement dit, ne vous aimez pas. » Vivre maritalement, c'est tenter de s'unir en excluant la seule raison qui pousse deux êtres à ne plus vouloir se quitter, l'amour véritable. En écrivant aux chrétiens d'Éphèse, Paul dit à propos du mariage, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qu'est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ et les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment pourrait-on mettre en parallèle le mariage tel qu'il vient de nous être décrit avec une union à l'essai, sans amour? Comment ne pas choisir le premier? La société nouvelle prône ce qu'elle appelle la libération de l'amour en dehors de toute tentative de partager sa vie jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Il paraît que le feu mystérieux qui se nomme l'amour commence déjà à diminuer d'intensité après un laps de temps très court pour finalement s'éteindre relativement vite et que nous devons être prêts à voir se flétrir la fleur qui s'était épanouie dans nos cœurs. Ainsi, pour ces gens-là, le mariage ne dure que très peu de temps pour ensuite se dissoudre par la force des choses. Une fois de plus, cette triste théorie fait preuve d'un manque total de compréhension en ce qui concerne l'amour. Ce sentiment, lorsqu'il est issu d'un engagement personnel, sincère et profond, ne meurt pas. Au contraire, il grandit. Il est possible que l'attraction physique s'amoindrisse. Mais contrairement à ce qu'avance la nouvelle vague des théoriciens sociaux, il ne s'agit là que d'une partie de l'amour et non de son ensemble. Ces idées ont pour origine la vieille conception qui voulait que l'amour soit une chose que l'on reçoit. On peut être séduit par certains êtres en vertu de leur beauté, de leur intelligence, et parce qu'on se sent bien en leur compagnie, on les aime en vertu du plaisir qu'ils nous donnent, mais ce genre d'attirance, souvent confondu avec l'amour proprement dit, est voué à l'échec de par sa nature même. Il est impossible que cet amour perdure. Car, quelle que soit la beauté et l'intelligence de cet homme ou de cette femme, il est fatal qu'une certaine habitude, une lassitude même, va s'emparer d'eux. Et cela, même s'ils ont vécu ensemble durant assez longtemps. Une simple attirance ne peut entretenir pour toujours un feu qu'il faut sans cesse attiser, sans recevoir une certaine chaleur en retour. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu enseigne la pérennité absolue du mariage, mis à part un seul cas particulier. Ainsi, dit-il, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. La vie à deux ne peut être temporaire, ni à mi-temps, ni périodique, mais doit être basée sur un engagement total, et à jamais. L'incompatibilité et l'incompréhension sexuelle, ainsi que les déviations perverses du même ordre, sont souvent invoquées dans les cas de divorce. Il est très rare qu'un défaut physique soit à l'origine d'une mésentente sexuelle. Cependant, si tel était malgré tout le cas, la médecine peut y remédier dans l'immense majorité des cas. Les mariages s'effondrent plutôt parce qu'ils ne sont pas basés sur une abnégation réciproque des conjoints, abnégation qu'a fait naître et croître l'amour. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de soi pour en être convaincu. De toute manière, le divorce est un péché et il est bon de réaffirmer cette vérité première. C'est une iniquité, surtout parce que la rupture a inévitablement pour origine une profonde indifférence aux besoins et aux droits de chacun des conjoints. En définitive, le divorce n'est que la formalisation du péché, car le problème fondamental réside dans un refus définitif d'aimer, alors que l'amour doit être patient, plein de bonté, ne pas chercher son intérêt propre, ne même pas soupçonner le mal, et qu'il supporte tout. Ceci ne signifie nullement, bien sûr, que de nombreux mariages qui ne se terminent pas nécessairement par un divorce soient des réussites. L'homme a l'étrange tendance de vouloir sans cesse savoir où se situent dans son comportement les bornes exactes, au-delà desquelles commencerait le péché. Cette propension l'incite à essayer d'en reculer la distance en interprétant les enseignements de Jésus-Christ à la manière des légalistes juifs vivant sous la loi de Moïse. Cette manière de voir fait considérer, par exemple, qu'on reste intègre tout en haïssant un homme, pour autant qu'on ne commette pas de meurtre. Le danger de cette manière de voir n'est pas aussi grave dans ce qu'elle interdit que dans ce qu'elle permet. On peut avoir envie de la forme d'un autre tout en ne commettant pas de péché à proprement parler, puisqu'on n'en arrive pas aux actes. Or, Jésus affirme, « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Nous voyons donc que cette façon de voir les choses sont absolument fausses. Celui qui se dit « Je peux rester bon chrétien tout en faisant de mon ménage un enfer, pour autant que je ne divorce pas », se trompe lourdement. La femme qui se refuse systématiquement à son mari, et par conséquent refuse de l'aimer, croit être en parfait accord avec les Écritures en demandant le divorce si son mari ose commettre l'adultère. Elle aussi a tort de faire une discrimination entre l'esprit et la lettre de la loi divine. Il est grand temps que chacun prenne conscience du terrible problème que représente le divorce. Il ne résout rien, car seul l'amour peut sauver un mariage. Qu'a enseigné Jésus au sujet du divorce? En Matthieu 5, 28, il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Quelques versets plus loin, il ajoute, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus établit donc deux points importants. Le premier, que le péché commis dans le cœur est déjà une faute. Et cela même avant qu'elle soit matériellement commise. Deuxièmement, que la seule exception à l'indissolubilité du mariage et l'infidélité, l'adultère, péché d'ordre sexuel, commis par un des conjoints qui anéantit la promesse de fidélité que le couple s'était fait le jour du mariage. Ce péché brise la confiance et l'affection, base essentielle d'une union. On peut ajouter ici que l'adultère n'amène pas ipso facto un couple à divorcer. Nombre de couples arrivent à pardonner, à surmonter cette grave crise. Toutefois, seul, une fois de plus, l'amour peut accomplir ce miracle. Si le mariage semble être au bord de la rupture, et surtout si ce drame est lié à des problèmes d'ordre sexuel, dans la majorité des cas, l'origine de tout le mal provient d'un manque d'amour véritable de part et d'autre. Avant de laisser se briser une union, il serait bon de lire et surtout d'essayer d'appliquer ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui me l'a présenté. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous voulez entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX, et je répète, Jacques Marchal, méditation biblique, boîte postale 2398, 21086, Toulouse, CEDEX.